Chapitre 9. Rome, réveille-toi!
Roman ouvrit lentement les yeux. Dante se tenait dans l'encadrement de la porte, le visage éclairé par la lueur verdâtre du téléphone qu'il tenait à la main.
Qu'est-ce qu'il y a? C'est Torrent. Il veut te parler.
Roman se redressa et posa les pieds sur le parquet froid. Il prit le portable.
Allô?
Il est temps d'honorer une partie de ta promesse, mec,
dit Torrent.
Toi et ton frère, vous avez rendez-vous avec deux de mes gars au crématorium dans 20 minutes.
Il raccrocha. Qu'est-ce qu'il voulait?
S'enquit Dante.
Va chercher les clés de ta voiture,
répondit Roman en se levant.
Ils ne prononcèrent pas un mot du trajet.
Au volant de la Challenger de Dante, Roman parcourait les rues fissurées de Jefferson Run avec la froide détermination d'un bourreau se rendant à la potence. Il essayait de se préparer mentalement à ce qui les attendait à la boutique. Probablement un ennemi des Black Baron Boys, enveloppé dans un drap ensanglanté. Un fils qui ne reverrait plus jamais sa mère ni son père, qui ne sentirait plus jamais le soleil sur son visage, qui ne respirerait plus l'air unique de la Virginie.
« Le feu détruit tout », murmura-t-il.
Lorsqu'il arriva en vue du crématorium, deux voitures se trouvaient sur le parking, leur feu de stationnement projetant une lueur blafarde sur le bitume et sur les arbres qui montaient la garde aux alentours. La première était la vieille Pontiac Bonneville vert dollar. La seconde, une Honda à corps customisé, équipée d'un gigantesque aileron arrière, de vitres teintées et de jantes chromées. Roman se gara. Il descendit de la Challenger et vit Yellow Boy et Splody sortir à leur tour des deux autres véhicules.
« Éteignez vos phares » ordonna-t-il. « À cette heure-ci, c'est un coup à attirer l'attention d'une patrouille de flics. »
Les deux malfrats obtempérèrent. Roman en profita pour déverrouiller la porte d'entrée et traverser la bâtisse afin de rejoindre la salle d'incinération, Dante le suivant comme un chiot craintif. Lorsque Roman actionna le bouton du rideau métallique qui donnait sur le parking, Yellow Boy et Splody ouvrirent chacun le coffre d'une des voitures et, après quelques instants de lutte, réapparurent accompagnés de deux silhouettes avec une tête d'oreiller sur la tête. Les hommes de main des frères Gilchrist escortèrent leurs prisonniers jusqu'à la salle d'incinération et les forcèrent à se mettre à genoux. Malgré le choc de constater que ces deux individus étaient bien vivants, Roman se hâta de refermer le rideau, puis il contourna les deux gangsters pour se placer à côté de Dante. Ce dernier tremblait tellement que Roman eut l'impression que l'air qui les séparait vibrait.
« Ça se passe comment ?» demanda Yellow Boy. « Vous les balancez juste dans le four ?»«
C'est pas ce qui était convenu, »
déclara Roman, laissant chaque mot flotter un instant avant d'en prononcer un autre.
« Ouais, Torrent s'attendait à ce que t'aies cette réaction, »
fit Splody. « C'est pour ça qu'il a insisté pour qu'on te les amène vivants. »
Il veut que tu te salisses les mains. Comme ça, tu seras moins tenté de nous balancer.
Roman essayait de réfléchir, de calculer un moyen de se tirer de cette situation. Malheureusement, il ne récupérerait pas le reste de la somme qu'il devait à Torrent et Tranquille avant d'avoir parlé à Khalil. Quand il était étendu au sol, le visage en sang, il n'avait pas envisagé un seul instant qu'en offrant l'accès au crématorium à Torrent et Tranquille afin qu'ils fassent disparaître leurs ennemis, les 10 ennemis franchiraient la porte sur leurs deux jambes. Roman était parti du principe qu'il devrait se débarrasser d'un cadavre, pas d'une personne. Pour son père, la différence était fondamentale.
« Un cadavre, c'est juste la viande et les os », avait déclaré Keith Carruthers,
le jour où il avait glissé dans le four le carton mortuaire contenant le corps de son ami Donnie Riggs.
« La personne, elle, n'est plus là depuis longtemps ».
L'idée d'incinérer un être humain vivant était impensable pour Roman, tout comme il était impensable pour un loup de mettre sciemment la patte dans un piège.
« Quoi ? » fit-il. « Mais pourquoi je vous balancerais alors que je travaille pour vous afin de rembourser la dette de mon frère ?»
Il s'était bien gardé de dire qu'il travaillait avec les Black Baron Boys. En ramassant ses dents éparpillées par terre, il avait retenu qu'avec ces gens-là, le choix des mots était capital.
« Qu'est-ce que j'en sais, moi ?» répliqua Yellow Boy. Les balances, elles ont toujours tout un tas de raisons. En tout cas, vous devez buter ces deux-là. C'est les ordres de Torrent.
Le gangster sortit alors son téléphone portable, L'espace de quelques instants, Roman, horrifié, songea que Yellow Boy allait filmer le meurtre. Mais celui-ci se contenta de taper un message avant de rempocher l'appareil.
« Tu t'en occupes ?»
lança Yellow Boy à Splody.
« Faut que je file. »« Pas de souci, mais fais gaffe !»
prévint son acolyte.
« Je connais les risques. J'espère que ça vaut le coup. »
Yellow Boy le fusilla du regard.
« Désolé !» bredouilla l'autre.
« Envoie-moi un texto quand ce sera fait !» ordonna le premier, avant de désigner Roman et Dante. « S'ils se défilent, Torrent t'a dit de les éliminer. »
« D'accord, mais... »
commença Splody, avant de poursuivre la conversation à voix basse. Après quelques secondes, Yellow Boy acquiesça.
« Ça marche, » conclut-il. « Tu me tiens au courant. »
Il souleva le rideau métallique, se glissa à l'extérieur et le referma derrière lui. Splody retira alors les têtes d'oreiller qui dissimulaient la tête des deux condamnés restés à genoux.
« Oh putain !»
gémit Dante en s'affalant contre Roman, qui dut le rattraper par la taille. L'un des prisonniers était un blanc avec des dreads. Son visage couvert de sang et d'ecchymose évoquait un tableau de Jackson Pollock. L'autre était une jeune latina, ou peut-être une métisse, Roman n'aurait pas su dire. Tous les deux avaient les poignets entravés et la bouche bâillonnée avec du Chatterton.
« C'est Getty et Cassidy »,
murmura Dante. Et Roman se raidit.
« Au fait, tu fais ce que tu veux de cette information. » Mais sache que ce petit blanc a pas hésité à te faire porter le chapeau.
La chasse plaudit en se tournant vers Dante.
Il a juré que tu lui avais volé la cam et qu'il avait aucune idée de ce que t'en avais fait. Je dis ça, je dis rien.
Pourquoi avoir aussi amené la fille ? Demanda Roman, qui s'était efforcé d'adopter le même ton nonchalant que Splody.
Parce qu'elle était sur place et qu'elle nous a vu embarquer son mec. Du coup, Torrent a ordonné de les faire disparaître tous les deux. Il aime pas trop qu'on se foute de sa gueule.
Roman observa Getty. Il avait un bleu sur la tempe gauche, de la taille d'une pièce de monnaie. De ses yeux écarquillés et rougis coulaient des larmes qui ruisselaient sur ses joues et sur le morceau d'adhésif qui lui couvrait la bouche. Il tentait de parler derrière son bâillon. À la façon dont il secouait ses dreads, Roman devina ce qu'il essayait de dire. « Pitié, ne me tuez pas. » Roman avait le pressentiment que la supplication ne serait pas entendue. Splody souleva le maillot de football américain qu'il portait et tira un pistolet chromé de sa ceinture. Roman n'était pas un expert, mais il lui sembla qu'il s'agissait d'un semi-automatique. En tout cas, l'arme ressemblait à celle de Jules dans Pulp Fiction.
« Bon, tu les butes ou c'est moi qui te bute ?»
demanda soudain le gangster. Roman retira son bras de la taille de Dante et se passa la langue sur les lèvres. Il avait envie de vomir. Sa spécialité, à lui, c'était les chiffres, les équations. Était-il déjà arrivé que ces manipulations mathématiques soient responsables d'un décès prématuré ? Oui. Faisait-il gagner de l'argent à des gens qui avaient pour habitude d'enterrer leurs concurrents dans les bois qui entouraient Stone Mountain ? Oui. Mais là, c'était différent. D'habitude, sa position lui garantissait une certaine distance vis-à-vis de toute la saleté que la fortune attirait. Et puis, les chiffres n'imploraient pas qu'on leur laisse la vie sauve. Il étudia rapidement son environnement. Son père avait un pistolet dans son bureau. Mais Roman ne se voyait pas appuyer le canon contre la tempe de Getty et presser la détente. À sa droite, sur la servante, il y avait un pied de biche et un marteau. Enfin, plusieurs rouleaux de gros scotch, comme celui que les gangsters avaient utilisé pour bâillonner les prisonniers, étaient posés à proximité du broyeur et de son entonnoir couvert de cendres. Il lui suffirait d'en appliquer un morceau sur le nez de Getty, mais dès que l'idée lui traversa la tête, Roman sut qu'il n'aurait jamais le cran de regarder un homme s'asphyxier. Il tourna le dos à Splody et plaça les mains sur les épaules de Dante.
« C'est lui ou nous » murmura-t-il. « Tu m'entends ? Lui ou nous ?»«
Cassidy ?»
demanda Dante en scrutant ses pieds.
« J'essaierai de négocier dans un second temps, mais quoi qu'il arrive, Getty ne sortira pas d'ici vivant. Tu l'as compris, hein ? C'est lui ou nous, frangin. »
Roman posa deux doigts sous le menton de Dante et lui releva la tête.
« Et entre lui et nous, je choisis nous, » conclut-il, avant de s'adresser à Splody.
« Tu peux m'aider à récupérer une boîte de crémation sur l'étagère, là ?»
Splody poussa un grognement, mais remit son pistolet dans la ceinture de son pantalon. Après quoi, Il s'avança avec Roman et Dante jusqu'au rayonnage situé dans un des coins de la pièce, où ils attrapèrent un grand panneau plat et rectangulaire. Dante et Roman s'accroupirent pour plier le carton, et quelques secondes plus tard, la longue boîte était prête.
« Aide-moi à le mettre dedans, frangin !» ordonna Roman.
« Je peux pas !» gémit Dante. « Je suis désolé, Rome. Je sais qu'il a essayé de me baiser, mais je peux pas !»«
Tu comptes pas le buter avant ?» s'étonna Splody, avec un petit rire. « Putain, t'es dur, mec !»«
Lui ou nous ?» répéta Roman.
Dante secoua la tête.
« Bon, d'accord, »
ajouta son aîné avec douceur.
« Je m'en occupe. »
Il prit plusieurs longues inspirations, et au moment où il sentait qu'il risquait l'hyperventilation, il s'approcha de Getty par derrière et le saisit sous les aisselles. Il était si léger. Roman se mit à traîner le condamné vers le chariot élévateur qu'il avait pris soin de baisser au minimum avant d'y poser la boîte en carton. Getty tenta de se défendre, de donner des coups de pied, de se débattre pour échapper à son bourreau. Hélas, jusqu'à récemment, Roman se rendait à la salle de sport 4 fois par semaine. Il agrippa Getty par le t-shirt et d'un mouvement ample, il le souleva et le jeta dans la boîte. Lorsque Getty essaya de se redresser, Roman lui asséna un coup de poing dans le nez qui renvoya le malheureux au fond de son carton. Getty se redressa à nouveau. Roman le frappa à nouveau. Plus fort cette fois, en mettant tout son poids dans le cou. Il sentit des os se briser sous ses phalanges. Étendu sur le dos, Getty poussait des gémissements étranglés. Quand il fit mine de se relever pour la 3e fois, Roman, les larmes aux yeux, tapa et tapa jusqu'à ce que les gémissements cessent et que Getty s'immobilise enfin. Roman serra et desserra le poing. Ses doigts étaient maculés de sang. Des années qu'il n'avait pas frappé quelqu'un. La dernière fois, c'était le jour où il avait pris sa revanche sur Lomelo Green, 3 ans après le coup de bouteille qui lui avait coûté une molaire. Mais ses muscles avaient une bonne mémoire. Roman saisit le couvercle en carton et, vif comme l'éclair, il le mit en place et enroula plusieurs longueurs d'adhésif autour de la boîte, une en bas, une au milieu et une en haut. Puis, sans un mot, il actionna le piston du chariot élévateur et fit glisser la boîte sur les rouleaux métalliques jusque dans le four. Il verrouilla alors la porte et jeta un regard à travers la vitre en verre trempé.
« Il est assommé, » songea-t-il. « Je l'ai mis KO. Il sentira rien. »
Roman ferma les yeux quelques instants, puis il s'avança vers le panneau de contrôle et approcha la main de l'interrupteur. C'était un gros bouton en plastique vert. Dès qu'il l'aurait actionné, un témoin lumineux s'allumerait et les flammes du four jailliraient. Roman se tourna vers son frère, qui était adossé au mur, la tête baissée. Son frère, qui avait fondu en larmes lorsque leur père avait tué une vipère. Malgré toutes ses erreurs, Dante était quelqu'un de bien. Roman se considérait lui aussi comme quelqu'un de bien. Mais peut-être qu'il se trompait. Devenait-on nécessairement un monstre si on commettait un acte ignoble pour une bonne raison? Sauver la vie de son frère, par exemple? Il s'efforça de déglutir et appuya sur le bouton. Dans le four, les flammes jaillirent avec un rugissement de dragon vengeur. Mais à peine eurent-elles commencé à lécher la boîte en carton que des bruits de coups résonnèrent à l'intérieur. La main sur la bouche, Roman recula d'un pas. Il lui semblait entendre Getty hurler. Cassidy, qui jusque-là était resté dans un état catatonique, se leva d'un bond et se mit à courir vers la porte. Hélas, elle n'avait pas fait 2 mètres que Splody lui asséna nonchalamment une gifle monumentale. Et elle retomba au sol en un tas informe de longs cheveux noirs et de jambes entortillées.
« Tu veux qu'on prépare une boîte pour cette connasse ?» proposa Splody.
Roman s'apprêtait à répondre quand il s'aperçut que Dante se tenait derrière le gangster. Il ne l'avait pas vu se déplacer, mais il était bien là, et il avait un objet à la main. Splody dut sentir sa présence, car il commença à se retourner. C'est alors que Dante le frappa à la tête avec le marteau à panne ronde provenant de la servante d'atelier. Il y eut un craquement sec, plus étouffé que ce à quoi s'attendait Roman. Splody posa un genou à terre et tenta de dégainer son arme, mais il n'en eut pas le loisir. Dante lui asséna un second coup, plus puissant, à l'arrière du crâne, et une gerbe de sang lui éclaboussa le visage. Splody s'écroula face contre terre et une flaque rouge se forma rapidement autour de sa tête, alors que les bruits en provenance du four cessaient enfin. Roman était comme paralysé. Son frère lâcha le marteau. Il cligna des yeux, le front moucheté de gouttelettes rouges.
« Je pouvais pas le laisser faire ça, » dit-il en secouant la tête. « Je pouvais pas te laisser faire ça, pas elle !»
Roman serait-il allé au bout? Aurait-il brûlé vive cette pauvre fille, dont le seul crime avait été de sortir avec un type qui n'avait pas conscience d'être un morceau de viande dans une mer infestée de requins? Il décida qu'il ne voulait pas répondre à cette question.